Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Récemment, nous avons abordé le thème « Dieu est amour ». Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de discussions sur le sujet « Comment le chrétien doit-il aimer à son tour ?»
Notre invité Jean-Marc va nous guider dans nos réflexions.
« Mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. »
Nous venons d'écouter la lecture du livre des Proverbes, chapitre 3, versets 1 à 6. Et nous allons à présent nous pencher sur la question « Comment véritablement aimer nos enfants ?» Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Yann, bonjour à tous.
Jean-Marc, dans les premiers chapitres du livre des Proverbes, nous rencontrons un homme qui s'adresse à son fils afin de lui enseigner la sagesse. Que pouvons-nous apprendre de son approche ?
Beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous abordons la question « Comment véritablement aimer nos enfants ?» Alors, en réponse, je dirais que la meilleure façon de les aimer, c'est de leur offrir ce qu'il y a de meilleur, et ce meilleur, c'est la sagesse de Dieu. Mais avant de poursuivre plus loin sur cette pensée, il nous faut rappeler quelques notions de base sur la famille.
Je vous en prie.
Bibliquement parlant, les parents ont des responsabilités envers leurs enfants. Ils doivent en effet mettre à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour grandir. Ils doivent, dans la mesure du possible, répondre à leurs besoins matériels, physiques et affectifs. Ils doivent aussi, au mieux de leurs moyens, protéger leurs enfants de tout danger et leur assurer un environnement sûr et sécurisant. Ainsi, un parent qui aime son enfant ne va pas le maltraiter ou le soumettre à une quelconque cruauté.
Revenons donc à ce que les Proverbes nous enseignent.
Oui. Comme vous l'avez dit, dans les premiers chapitres des Proverbes, nous rencontrons un homme qui s'adresse à son fils afin de lui donner des conseils. J'y vois ici un élément très important. Aimer nos enfants, c'est les préparer à l'âge adulte. C'est leur donner une sagesse qui leur permettra de bien réussir leur vie.
Il s'agit donc de leur donner une certaine éducation.
Oui. À l'école, nos enfants apprennent à lire et à compter. Ces sujets sont importants. Mais l'éducation dont parlent les proverbes est bien plus importante encore.
Parlez-nous donc de cette éducation. De quoi s'agit-il ?
Elle inclut deux éléments, l'un spirituel et l'autre moral. Mais tous deux sont fort liés.
En ce qui concerne le premier, il implique qu'il est de notre devoir de parler aux enfants de Dieu.
Tout à fait. Selon les proverbes, il est sage de vivre sa vie à la lumière de ce que nous connaissons de Dieu, et c'est folie de ne pas tenir compte du fait que Dieu est vivant, qu'il existe réellement. Il est donc nécessaire d'enseigner cette sagesse à nos enfants, de les aider à comprendre qui est l'Éternel, de susciter en eux le désir de le connaître et de leur transmettre la conviction que l'Éternel est digne de confiance. Cette sagesse peut être acquise non seulement à travers des paroles, des conseils ou un enseignement, mais aussi grâce à la relation vraie et sincère que nous vivons avec l'Éternel.
Oui, les proverbes décrivent la connaissance de l'Éternel comme un trésor sans prix. Il est donc essentiel que nous expliquions aux enfants la manière de trouver ce trésor. Mais passons à présent à ce que vous appelez l'éducation morale. Qu'en disent les proverbes ?
Le père qui enseigne son enfant dans le livre des Proverbes évoque plusieurs situations ou tentations que son fils pourrait rencontrer une fois adulte. Il lui donne alors des conseils qui, s'ils sont bien suivis, permettront à son fils, confronté à l'une de ces situations, d'agir avec sagesse. À son exemple, nous devons à notre tour imaginez les pièges et les difficultés que nos enfants pourraient rencontrer afin de chercher à les y préparer. En agissant ainsi, ils y feront face en temps voulu et pourront tous les surmonter.
Quels sont les pièges évoqués par les proverbes ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
Le livre des proverbes nous présente plusieurs personnages s'exécutant comme dans une pièce de théâtre. Or, la plupart de ces personnages représentent un danger, un piège, dans lequel le jeune homme pourrait tomber. Nous découvrons ainsi une femme adultère qui représente tous les dangers des relations sexuelles immorales. Un homme paresseux nous rappelle que pour bien réussir sa vie, il faut travailler. Une bande de voyous nous montre tous les dangers de la violence et de la délinquance. À travers chacune de ces situations, ce père désire aider son fils à comprendre quelles vont être les conséquences désastreuses qui l'accableront s'il s'entêtait à poursuivre ses voies dangereuses. Ce père met aussi l'accent sur les bienfaits procurés par la sagesse, la justice et l'intégrité. Il souligne la valeur inestimable d'une vie menée en respectant la loi et la sagesse divine. Chaque parent connaît les dangers qui guetteront leurs enfants lorsqu'ils atteindront l'âge adulte. Or, beaucoup de ces dangers ressemblent aux situations évoquées par les proverbes. Il est vrai que la vie moderne apporte son lot de séductions et de tentations nouvelles. C'est pourquoi nous devons préparer nos enfants pour que, confrontés aux pièges de la vie, ils puissent prendre des décisions sages et équilibrées.
Merci Jean-Marc. Les proverbes parlent souvent de la nécessité de corriger nos enfants, même parfois physiquement. Par exemple, nous lisons au chapitre 23, versets 13 et 14. « N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. » Pour certains, de tels versets semblent approuver la cruauté pratiquée sur ces enfants. Ils sont en contradiction avec l'idée que Dieu est amour. Qu'en dites-vous ?
Selon les proverbes, enfin selon la Bible entière, la correction est salutaire. La correction sert à renforcer les instructions et les conseils appris. En étant corrigés, les enfants apprennent que la désobéissance peut entraîner des conséquences désagréables et malheureuses. Avertis ainsi, dès leur plus jeune âge, les enfants grandiront, sachant que celui qui sème le mal récoltera le malheur. Si cette leçon est apprise dès l'enfance, l'enfant devenu adulte mènera une vie d'autant plus sage. La Bible affirme que le parent qui ne corrige pas son enfant ne fait pas preuve envers lui d'un véritable amour.
Pourquoi ?
Parce que si on laisse un enfant faire tout ce qu'il veut, sans jamais le réprimander ou le discipliner, cet enfant risque, en grandissant, de pratiquer le mal et de gâcher sa vie. Il ignorera qu'il y a des limites à respecter dans la société et que les mauvaises actions entraînent des conséquences malheureuses.
Mais le proverbe lu tout à l'heure évoque, au sujet de la correction, les coups physiques. Cela pourrait choquer certains.
Oui, je comprends. Mais si la Bible en parle comme une forme de correction possible, c'est que nous ne devons pas l'exclure. Que dire ? D'abord, nous ne pouvons pas nous servir de ces versets bibliques pour justifier une quelconque cruauté. À mon avis, il ne faut administrer ce genre de correction qu'en dernier recours, quand tous les avertissements ou autres tentatives ont échoué. Ensuite, il ne faut pas que la correction soit démesurée. Il ne faut pas non plus qu'elle devienne l'origine de blessures physiques. Enfin, je pense que toute personne sensée sait faire la différence entre la discipline et la maltraitance, entre la correction et la cruauté.
Merci Jean-Marc. Nous devons malheureusement terminer là notre discussion pour aujourd'hui. Cependant, nous avons un Père céleste qui désire nous enseigner sur la manière de mieux aimer nos enfants. Nous pouvons le prier, confiant qu'il nous accordera sa sagesse par sa parole.
Comme nous venons de parler de l'amour du chrétien, nous voulons à présent réfléchir sur l'amour de Dieu.
Ainsi, tout au long de cette série, nos méditations bibliques porteront sur les images de l'Ancien Testament, donnant un aperçu de cet amour. Écoutons pour cela les paroles du prophète Sophonie, chapitre 3, versets 16 à 17. Ensuite, Alain nous fera part de ses réflexions sur ce texte.
En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Sois sans crainte, ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie, et il exultera tout comme au jour de fête. »
Dans l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre de la Genèse, nous trouvons le récit d'un homme nommé Lot. Il vivait dans la ville de Sodome. Or, voilà qu'un jour, des tribus ennemies attaquèrent sa ville. Ils capturèrent Lot et d'autres personnes qui devinrent leurs prisonniers. Or, Lot avait un oncle nommé Abran. Abran était un homme sage et paisible. Toutefois, en apprenant que son neveu était devenu captif des tribus ennemies, il monta une expédition militaire avec ses propres hommes dans le but de secourir et libérer Lot et ses amis. Abran agit ainsi en guerrier qui sauve. De nos jours, il peut aussi arriver que des personnes soient prises en otage, soit par des terroristes, soit par des brigands. Et parfois, suite à l'échec de négociations, le gouvernement se trouve obligé d'envoyer des forces spéciales armées afin de libérer ses otages, tout en espérant ne pas faire trop de victimes. Ces otages ont donc besoin d'un guerrier qui sauve. Mais en quoi peut-on comparer Dieu, ou plutôt l'amour de Dieu, à un guerrier qui sauve? Dans l'Ancien Testament, toutes les fois que le peuple hébreu remportait une victoire sur ses ennemis, et surtout lorsqu'elle survenait contre toute attente, ils en attribuaient le succès à l'intervention de Dieu qui était avec eux et pour eux. Toutefois, dans le Nouveau Testament, nous apprenons que nos véritables ennemis sont le péché, le diable et la mort. Tous trois nous tiennent en otage et nous avons sur le plan spirituel besoin d'un libérateur. Selon le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a combattu ses trois ennemis sur la croix et il a remporté sur eux la victoire. Toute personne qui place sa foi en Jésus-Christ peut alors être libérée. La condamnation du péché est en effet levée, le pouvoir du diable brisé et la mort n'est plus qu'une porte s'ouvrant sur la résurrection et la vie éternelle. Jésus-Christ est donc comme un guerrier qui sauve. Parce qu'il nous aime, il n'est pas indifférent à notre sort. Par amour, il fut prêt à souffrir afin de nous libérer. Parce qu'il nous aime, il a payé le prix ultime. Il est mort à notre place, sur une croix, afin d'obtenir notre libération. Dans son amour, il a déployé sa toute-puissance afin de nous secourir et nous délivrer d'ennemis contre qui nous ne pouvons rien.
Quelle bonne nouvelle de se rappeler que Jésus a triomphé de nos ennemis, ceux dont la nature est spirituelle.
Jésus nous encourage d'aimer nos ennemis, que ce soit nos voisins, nos collègues ou autres. Mais comment donc aimer ses ennemis? Ce sera le sujet de notre discussion la prochaine fois, alors que nous poursuivrons nos deux séries sur le thème de l'amour.
Nous vous remercions de votre écoute et espérons vous retrouver bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.